News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 octobre 2025, deuxième et dernière journée du Forum des métiers Grenoble-Alpes Métropole, édition 2025 à Alpexpo Grenoble.
Toujours en direct sur News FM, sur le 101.2, vous avez choisi la bonne fréquence. Vous êtes en direct ici donc à l'Alpexpo pour ce forum des métiers. Et comme je vous l'ai dit, les tables rondes s'enchaînent et c'est l'heure de la deuxième table ronde, bâtir durable, emploi, formation et mixité pour une transition écologique dans le bâtiment. Pour cette table ronde, bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Laurent Marmonier, qu'on a eu l'occasion d'avoir tout à l'heure, qui nous a encore rejoint. En tout cas, re-bienvenue Laurent. Aujourd'hui, donc voilà, on aura l'occasion de rediscuter ensemble donc sur un nouveau sujet. Mais forcément, tout se rassemble, Laurent. Hein, quand on a parlé du premier sujet, j'imagine que celui-là, il y aura des liens.
Voilà.
On va faire un petit tour de table pour déjà se présenter. Donc, on a Romain Garçon qui est chargé de projets exceptionnels.
Tout à fait. Bonjour.
C'est beau. Le statut est magnifique quand même.
Elles
sont projet exceptionnel.
On en parlera.
On en parlera d'ici quelques instants. Donc, je fais partie des compagnons du Tour de France et j'ai fait les compagnons du Tour de France.
Où ça ?
À Échirolles.
Ok.
On aura l'occasion d'en discuter peut-être après.
Tu repasses quand tu veux.
Avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, c'est aussi cette formation, mine de rien, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, et ça m'a beaucoup servi, mais on en reparlera d'ici quelques instants. Ivan aussi est avec nous. Ivan Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Qui est artisane plombière, donc collectif Tangente. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir.
Merci.
Et on a Cécile Guyard qui est avec nous, donc chargée d'opérations au service construction Grenoble-Alpes Métropole.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Et ben l'idée, donc, comme je vous ai dit, c'est de faire cette table ronde. D'abord, dans un premier temps, d'échanger sur ce que vous faites au quotidien. Donc voilà, je vais commencer par Cécile, justement chargée d'opérations. Qu'est-ce qu'on y fait au service construction Grenoble-Alpes Métropole ?
Au service construction de Grenoble-Alpes Métropole, on fait de la gestion de projets de construction, que ce soit de la construction pour des bâtiments ou de la construction plus typée industrielle, pour le compte des compétences de la métropole. Donc ça va aller des établissements recevant du public à des sites plus industriels, type incinérateur de déchets, chaufferie, déchetterie, etc. Puisque la collectivité porte un certain nombre de compétences et va avoir du coup des bâtiments très diversifiés à son actif. Donc c'est des métiers de la maîtrise d'ouvrage, gestion de projet, et au-delà de ça, dans le service construction, je suis en charge également de la réalisation d'un guide de la construction durable pour faire monter en compétence tous les chargés d'opération sur l'évolution du métier de la construction et comment on injecte le développement durable dans ce métier.
Quand on dit un guide, on parle d'un petit livret, on parle de quoi dans un guide. Qu'est-ce qu'un guide ?
On parle d'un livret où on répertorie les bonnes pratiques pour une formation continue des acteurs. C'est ça le
principe. Ça va faire du boulot, ça. Mais en tout cas, c'est un super projet. Donc, pareil, on aura aussi l'occasion d'en discuter d'ici quelques instants. On enchaîne avec Ivan Sanchez, donc artisane plombière. Le collectif Tangente, qu'est-ce que c'est le collectif Tangente ?
Alors, moi, je suis membre du collectif, j'ai en tant que membre, pas pour le représenter, mais ça s'est créé par des personnes qui étaient en formation à Plon il y a quelques années et qui, après une journée du genre, suite à une journée du genre, ont été déçus de la manière dont certains sujets ont été traités et qui ont décidé de s'organiser en collectif. Et maintenant, c'est un lieu finalement de dialogue, d'échange aussi, où on peut faire des chantiers entre nous. Et amener du support aussi pour les personnes qui réfléchissent à partir en formation ou qui sont en formation ou en travail ou en emploi dans le bâtiment.
Et du coup, comment vous êtes devenue artisane plombière ? Comment ça est arrivé un petit peu cette histoire ?
Pour moi, c'est une reconversion. J'ai pas mal travaillé en informatique, travaillé aussi un peu à l'étranger. Et du coup, j'ai fini ma formation, j'ai fait un titre professionnel à l'AFPAR que j'ai fini il y a un an. Depuis là, en un an, j'ai fait trois boulots différents dans trois structures très différentes, avec des expériences pas toujours faciles. Et du coup, je pense que là, mon témoignage peut être intéressant sur la partie formation-reconversion et évidemment sur la mixité.
Exactement, puis on aura l'occasion de parler de ces sujets qui nous touchent à tous. Les compagnons du Tour de France, comme j'ai dit tout à l'heure, Romain, moi c'est quelque chose que je connais un petit peu, mais pour nos auditeurs, peut-être recontextualiser déjà les compagnons et ensuite nous parler un petit peu du projet exceptionnel.
Avec plaisir. Alors, les compagnons du Tour de France, donc c'est, je pense que toi tu connais, pour les autres, en fait on est une entité, on représente le compagnonnage qui est une façon de voir son métier. L'idée, c'est que ça a été fondé il y a à peu près 1000 ans, plus ou moins.
Wow, c'est l'idée, si vieux que ça ?
Ouais, les temples, la construction des premiers temples cathédrales, c'était nous. Oui. Pas sur cette forme-là, mais c'était nous. L'idée était de rendre le citoyen libre et s'épanouir par son métier, par l'excellence du métier. Aujourd'hui, le Tour de France, donc les compagnons du Tour de France ne sont pas à confondre avec l'association des compagnons du devoir. Nous sommes deux structures bien différentes. Nous, on propose les métiers du bâtiment exclusivement, seconde œuvre et finition. On est présent donc là sur Grenoble et Chirol, et on a une antenne très proche également à Annecy et sur Lyon. Et du coup, le projet exceptionnel dont on parle, c'est qu'on s'est rendu compte que les métiers du bâtiment sont en tension, j'apprends rien à personne. On ne peut pas se priver de tous les talents, et on peut encore moins se priver de la présence des femmes dans les métiers du bâtiment, qui amènent de la polyvalence, qui amènent de la mixité, qui amènent de l'intelligence aussi. Donc l'idée, c'est de leur montrer que c'est possible, que sur la plupart des métiers, il y a énormément de choses qui se développent, leur intégration, les aides aussi au niveau du travail, la mentalité des entreprises change, donc on a pas mal de travail. Et aujourd'hui, elles sont quasiment 3% sur les chantiers, donc on aimerait que ça monte un peu plus. Et en formation chez nous, on a à peu près 1200 jeunes apprentis, elles sont 14%.
Et justement, c'est une bonne transition avec le premier sujet quand même, mine de rien, bah, oui, la mixité aussi dans des métiers comme celui-là. Laurent, vous, comment ça se passe au niveau justement de toute cette mixité? Est-ce qu'on arrive à avoir des femmes dans ce milieu-là de votre côté?
Oui, il y a une féminisation dans le bâtiment. Bon, moi, j'ai une entreprise de maçonnerie, l'équipe chantier, c'est deux femmes, un homme. Il y a une transition qui se fait. On n'a plus de. Bon, je n'ose pas dire, on n'a plus de frein. Mais en tout cas, on a un engouement des femmes pour les métiers du bâtiment, c'est clair. Le centre de formation de Aplon, qui est un partenaire de la CAPEB, dont vient de parler Ivan, a des fois même des difficultés à maintenir une certaine mixité dans les formations. Cette année, on a un ouvrier professionnel en restauration du patrimoine avec 8 femmes et 4 hommes, et on a cru que ce ne serait pas mixte, en fait. Mais ça s'est rééquilibré sur la fin. Sinon, ça allait être que féminin. Donc, voilà, le bâtiment durable, ce n'est pas uniquement la mixité, mais en tout cas, ça participe à détendre un petit peu les difficultés de recrutement. Parce que voilà, on double, et puis ça, honnêtement, moi en tant que com sur les chantiers, c'est quand même plus agréable de travailler dans un milieu mixte, parce que sinon ça peut vite devenir un peu lourd.
Et j'ai l'impression que ça va quand même de mieux en mieux depuis quelques années. On est toujours dans l'amélioration et surtout on est vigilant à ça. Cécile, pareil, qu'est-ce que vous constatez au niveau de cette mixité-là, vous, au quotidien, sur les métiers du bâtiment ?
Alors, je pratique le métier de la maîtrise d'ouvrage, donc on est sur un métier qui n'est pas au quotidien sur le chantier. Ce qu'on constate, c'est que dans la maîtrise d'ouvrage, il y a une certaine mixité. Nous, au service construction de la métropole, on est 60% de femmes. Donc c'est une très bonne mixité, on est presque à égalité. Et le métier de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre sont peut-être plus faciles et paraissent plus accessibles aux femmes. Je pense qu'il faut qu'on insuffle en tant que maître d'ouvrage, c'est la mixité au niveau du chantier et des compagnons. Et pour ça, il faut qu'on s'efforce en tant que responsable de projet à pousser les entreprises à favoriser l'accès sur les chantiers aux femmes. Et notamment, dans nos contrats avec les entreprises, à les pousser à avoir des sanitaires, des vestiaires femmes pour que les personnes puissent accéder au chantier. Je pense que c'est un vrai frein aujourd'hui.
Ivan, je vous voyais réagir un petit peu à ça. Vous avez dit tout à l'heure, en plus, vous avez aussi connu quelques difficultés par rapport à ça. J'imagine que vous avez quelque chose à dire.
Juste, non, le premier truc sur lequel je rigolais, parce qu'on en a parlé avec Cécile juste avant, c'est que du coup, à la métro, ils dessinent par compagnon plutôt les ouvriers en général. Donc, c'est pour éviter de faire des confusions avec compagnons du devoir et compagnons du Tour de France. Bon courage. Et ensuite, moi je partage pas forcément le même regard que vous sur la mixité, parce que j'ai travaillé sur des chantiers pas forcément très durables, transition écologique, enfin moins sur un chantier comme ça. Et j'ai l'impression que la mixité, elle s'installe justement plus dans ce qui est durable et écologique, où c'est aussi des profils où il y a aussi plus de reconversion et la reconversion est plus mixte. Mais je connais aussi des personnes en formation initiale et j'aimerais bien qu'elles ne soient pas exclues du débat aujourd'hui et les personnes racisées peut-être non plus. Mais après, moi en plomberie, c'est aussi un contexte assez particulier où on travaille plutôt en petites équipes et pas forcément les mêmes problématiques. Pour revenir sur la question des vestiaires et questions pratiques, c'est un problème que j'ai rencontré aussi en formation. Sur une journée porte ouverte de l'AFPA, quelqu'un de l'AFPA qui présentait, moi j'étais en arrière-plan en train de travailler, où j'avais un peu l'impression justement de faire partie de la com. Et du coup, j'ai quand même fait la remarque que je n'avais pas de vestiaire femme, en fait, qu'on m'avait dit, si tu veux aller à un vestiaire, tu vas deux bâtiments plus loin. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Depuis, ils ont construit un vestiaire femme.
Depuis.
Je ne vais peut-être pas parler plus longtemps tout de suite.
Peut-être justement, peut-être une réaction, Laurent ou Romain.
Nous, on sait que, en fait, notre mission à nous, c'est de faire en sorte que leur intégration en formation, elle soit la plus parfaite et optimum possible. Donc, qu'on ait des équipes qui soient sensibilisées à l'intégration d'une femme traditionnellement dans un métier d'homme. Tu vois, déjà rien que ça, quand tu as des ouvriers qui ont 20, 30, 40 ans de métier.
Je ne suis pas d'accord. La plomberie, c'est un métier de femme qui est exercé par des hommes, mais ça, on peut en parler après.
Traditionnellement, en formation.
On peut avoir un métier comme des métiers d'hommes.
Non, mais bien sûr. Mais en formation, nous, traditionnellement, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mmh. Donc, du coup, quand tu amènes un public spécifique, différent de ce qu'ils ont connu quasiment toute leur vie, faut un changement de mentalité, etc. C'est là, certains l'ont déjà et on n'a jamais de soucis. Je tiens à dire qu'on n'a quasiment jamais de problèmes. Mmh. Et les problèmes sont aussi liés aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes. Tu vois, un jeune garçon qui va avoir un problème dans son entreprise pour différentes raisons, on doit réagir de la même façon. Là, ça doit être exactement la même façon. On doit nous aussi travailler sur le suivi en entreprise. On doit travailler sur le changement des mentalités. Et puis quand elles arrivent chez nous, faut qu'il y ait des sanitaires adaptés, des locaux adaptés. On réfléchit aussi à mesdames, vous avez des problématiques que nous on n'a pas. C'est ce qu'on appelle les règles. Mmh. Donc on essaye de mettre à disposition des référents, des aides sur les protections hygiéniques en disant si vous avez un problème, vous avez quelque chose dans un endroit spécifique et on résout déjà aussi ce problème-là. Les équipements. Des outils adaptés, peut-être plus légers, des vêtements adaptés à la morphologie des femmes, tu vois, toutes ces problématiques-là. Quand on aura déjà, nous, en formation, résolu quasiment tout ça, on pourra encore continuer à appuyer avec les entreprises qui nous suivent et d'autres qui se rendent compte que les femmes en entreprise, c'est des vrais atouts.
Laurent, quand on entend Ivan justement parler de ces vestiaires aussi, quand on dit, vestiaires femmes, il n'y a pas, il faut aller plus loin. C'est des choses qui vous choquent,
j'imagine. Je vais réagir à deux choses. Alors évidemment, ce qu'a dit Ivan Sanchez, c'est très important, c'est que c'est d'abord le bâtiment de transition, l'éco-construction et la restauration du patrimoine qui s'est ouvert aux femmes. Bien plus que le bâtiment conventionnel, surtout quand on est dans la cascade de sous-traitance des entreprises de grande taille. Là, je pense que c'est 100% masculin. Mais 98% des entreprises du bâtiment, c'est des moins de 20 en France. Donc, on a quand même des structures qui sont un peu plus ouvertes. Et puis, je réagis sur ce que vient de dire mon voisin. Est-ce qu'il faut adapter les postes aux femmes ? Moi, j'invite les gens à regarder la finale de la Coupe du Monde féminine de rugby et qui continueront à penser que les femmes sont des êtres faibles. Personnellement, je ne me risquerai pas sur le terrain. Mais voilà. Nous, on part plutôt dans l'idée que les femmes qui viennent dans le bâtiment, c'est la part des femmes qui a la carrure et la volonté pour le faire. Et c'est exactement pareil pour les hommes. Si on prend un dactylo de chez Hewlett-Packard et qu'on lui demande de venir sur un chantier, ça a beau être un homme, ça ne va pas se passer tout seul non plus. Donc,
voilà. Si je peux juste compléter ton propos, en fait, ce qui va servir à l'un va servir à l'autre. En fait, c'est exactement ce qu'on disait. C'est qu'on a aussi, nous, des jeunes garçons en formation qui, physiquement, sont faibles. On a une femme aussi, physiquement, qui ne va pas être l'égale d'un homme. Comment est-ce qu'ensemble, pour les deux, on peut trouver un moyen de faire rouler, de porter, de transporter sans s'éclater le dos, en fait, finalement, tu vois. Donc, en fait, la mixité rend intelligent l'ensemble de la formation, des métiers. Et si on peut trouver des solutions pour tout le monde, c'est ça la finalité aussi.
Ivan ?
Ouais, moi j'ai eu pas mal de problèmes avec l'intervention de Romain qui parlait beaucoup de adapter et enfin pour moi c'est des questions qu'on pose plutôt avec le handicap et je pense pas que ce soit un handicap d'être une femme. Sur la question des protections menstruelles, je trouve que c'est du paternalisme pour être direct en fait parce qu'on sait gérer nos règles. Enfin, normalement quand t'arrives en formation, t'as pas 12 ans, t'as pas tes règles pour la première fois. Et par contre, ce qui compte, c'est d'avoir des sanitaires adaptés. Moi, des sanitaires propres et présents sur le chantier pour tout le monde. Sur des chantiers où on intervient chez du particulier, en plomberie, c'est aussi beaucoup ça, on va couper l'eau. Mais sur des chantiers de courte durée où on intervient chez le particulier, effectivement, ça peut plus être une question. Mais mais on est rarement, enfin si on est dans un endroit hyper, ouais, il y a toujours des solutions et des manières de faire, mais qui peuvent, que les personnes peuvent trouver elles-mêmes et entre elles. Si les sanitaires pas bons, moi j'ai rencontré ça sur un chantier de neuf qui était où en fait les sanitaires ouvriers, j'avais le droit d'aller, excusez-moi, je pars. Moi j'avais le droit d'aller dans les sanitaires des cadres. Pendant les vacances de Noël, ils ont fermé cet accès-là. Donc je suis allée dans les sanitaires collectifs où il n'y avait pas de savon, pas de brosse pour les toilettes. Et en fait, l'entreprise responsable du chantier avait apparemment décrété que les ouvriers étaient trop sales et qu'ils ne voulaient pas nettoyer des toilettes trop sales et que du coup, ces toilettes n'allaient pas être nettoyées. Et moi, ça me choque encore en fait qu'il n'y ait pas eu de savon, de papier, de brosse pour les toilettes. Comment peut-on avoir un environnement propre ?
Après, je pense que c'est très propre à chacun. Hein. Je pense que Romain, comme l'a dit Romain, ils mettent en place des choses. En tout cas, c'est sûr qu'on. Je pense que à ce niveau-là, on peut pas entre guillemets leur reprocher. Mais effectivement, il reste encore Ivan des problématiques pour certaines entreprises aussi qui eux sont compliquées. Mais je pense qu'il faut pas forcément faire cette généralité-là.
Et sur la question des publics différents, moi je pense que déjà les jeunes de 2025 sont peut-être différents des jeunes de 2010 ou des jeunes aussi. De 2000. Donc en fait, on a toujours des publics différents. Donc il faut considérer la population dans son ensemble. Et on est dans une société qui se polarise avec aussi une montée du masculinisme de l'autre côté, c'est-à-dire de comportements ultra stéréotypés chez les jeunes hommes. Donc ça, c'est aussi un truc qui est important à savoir et à prendre en compte. Je reviens dessus après. Et j'ai oublié un truc. Je suis désolée. Ouais, sur. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais un exercice comme ça.
De la radio. on peut revenir après si vous voulez. On y reviendra après. Moi, donc, pour enchaîner sur un autre sujet, bon, qui reste quand même le même, mais quelles difficultés, justement, vous rencontrez dans vos recrutements respectifs ? Je ne sais pas, Cécile, si vous voulez intervenir, non, peut-être pas sur ça.
Je ne suis pas directement en charge du recrutement.
Mais peut-être que vous, j'imagine qu'avec aussi même avec vos constatations, ce que vous pouvez faire au quotidien, j'imagine que vous en avez rencontré des personnes qui sont en charge de tout ça.
Oui, ce qu'on constate, c'est que les métiers en tout cas le métier de la maîtrise d'ouvrage que je pratique et que je côtoie beaucoup de maîtres d'ouvrage, ils évoluent liés. Enfin, je ne parle pas forcément de la mixité là, mais plutôt du sujet bâtiment durable. Le champ des compétences qu'on doit avoir pour exercer ce métier s'élargit rapidement en fait depuis 5-10 ans puisque initialement le métier de la maîtrise d'ouvrage c'est gérer un projet de construction, donc dans les gestions de projet de construction on a évidemment la sécurité, la conformité de ce qu'on construit, le planning, le budget, etc. Donc ça c'est les sujets de base et aujourd'hui on se rend compte que plus de 50% de notre temps c'est d'ajouter d'autres choses à ces sujets-là. C'est s'assurer que de ce qu'on va construire va être conforme thermiquement, on va prendre en compte la gestion de l'eau, la gestion des matériaux, et intégrer du réemploi dans les objectifs, dans les programmes de ce qu'on construit. Et en fait, tous ces sujets, je dis l'eau, les matériaux, et l'énergie, mais il y a d'autres sujets, la flexibilité, la durabilité de ce qu'on construit. Et ces thématiques-là, on se rend compte qu'on ne peut pas toutes les avoir dans notre formation initiale. Donc il y a une difficulté de recrutement pour ces métiers parce qu'on a besoin d'une énorme polyvalence. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à la formation initiale, il faut voir comment on fait la formation continue. Et c'est là où il faut qu'on travaille en transversal dans les métiers de la construction pour se partager les bonnes pratiques. Et la métropole essaye de mettre ça en place en fonction des thématiques. Par exemple, l'année dernière, on a organisé un grand forum sur l'eau dans la ville à la métropole. On a invité toutes les personnes du secteur, notamment tous les bureaux d'études d'entreprises liés au VRD, à la gestion de l'eau, pour dire, aujourd'hui, dans la métropole de Grenoble, c'est comme ça qu'on souhaite construire, c'est comme ça qu'on souhaite gérer l'eau pluviale sur tous les chantiers. Voici nos bonnes pratiques, on va vous former. Et donc, c'est par ce type d'événement, je pense qu'on peut faire monter en compétence la profession.
Romain, tout à l'heure, on discutait du projet, hein, exceptionnel. Ouais. Du coup, est-ce que vous rencontrez justement aussi des difficultés au niveau du recrutement ou finalement pas tant que ça en fait ?
Ça va dépendre des métiers. Et en fait, je pense qu'on est, nous, liés à plusieurs problématiques. On a encore malheureusement les restes de, la tendance. T'es dans un métier manuel, bâtiment, voie de garage. Et en fait, on valorise pas assez les métiers du bâtiment qui sont de plus en plus essentiels. On a aussi la poussée de l'IA. Donc en fait, on dit on va pousser avec les clients, on va pousser avec l'informatique, le digital, etc. Aujourd'hui, ChatGPT ne peut pas construire une maison à la place de tous les artisans que je rencontre. Et on se rend compte que le manuel est aussi un métier qui va rendre épanouissant avec plein de carrières. Il y a énormément de possibilités dans les métiers du bâtiment. Donc on a cette visibilité-là et on met en avant beaucoup de métiers. Alors les métiers durables, mieux construire sont essentiels avec tous les enjeux qu'on connaît, mais on valorise par exemple beaucoup les métiers du bois. Je n'ai rien contre les métiers du bois, j'adore les métiers du bois, mais par exemple si je parle du métier de couvreur, couvreuse à X personnes dans la rue, je suis quasiment sûr qu'un grand nombre ne sait pas de quoi on parle. Tu vois, on a besoin de jointeurs, on a besoin de plombiers, on a besoin de plâtriers, on a besoin de plaquistes, et on a souvent des candidats qui viennent pour faire du bois. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc en fait, il y a la visibilité du métier, sa réalité. Le menuisier, aujourd'hui, pour vivre, il faut faire de la mécanisation, du volume, de la série, et il faut aller chercher aussi des chantiers publics comme des chantiers privés. Donc tu vois, on a ces enjeux-là. Et on a aussi des publics post-troisième ou quatrième, troisième, post-bac, qui n'ont pas forcément la chance d'aller voir dans les entreprises les métiers. Tu vois, la réalité terrain. Donc des fois, il y a un gros choc quand ils arrivent, ou en fait chez nous ils sont assez autonomes dans les ateliers. Donc t'as cette vision de l'enseignement où on va leur dire bah t'as ton sujet, ton dossier technique, je te laisse 4 heures, je te donne les outils, je vais t'apprendre à le faire. Et les jeunes ils sont là mais est-ce qu'il faut que je pose des questions, est-ce que j'y vais, etc. Et on a aussi le fait qu'on aimerait intégrer du coup beaucoup plus les femmes dans ces métiers là et les femmes sont moins orientées encore aujourd'hui dans les métiers manuels et bâtiments, on les envoie plus dans d'autres filières. Donc tu vois, nous ça fait pas mal d'enjeux à travailler.
Laurent.
Oui, alors évidemment, j'approuve tout ce qui vient d'être dit sur la diversité des attentes. Hein. Cécile a parlé de l'évolution du rapport à l'eau, à l'énergie, au territoire. Il est capital que les gens qu'on embauche aient bien intégré ça, parce qu'il ne faut pas s'accrocher au règlement de l'État qui va dans le bon sens, mais qui change tout le temps. C'est quand même ça, c'est un petit peu difficile, même si, je le répète, ça va dans le bon sens, mais avec... Mais on a besoin d'avoir des gens qui restent longtemps dans les entreprises. Les entreprises du bâtiment, toutes les petites, qui représentent 50% du chiffre d'affaires et 98% des structures, elles ont un fonctionnement financier qui est juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Et quand on a des gens qui restent 4 ans, ce qui est la moyenne aujourd'hui, on est content, c'est deux fois plus que dans l'assurance et dans la banque. Mais enfin, c'est quand même des contrats courts. On a 2 ans où l'entreprise est en perte parce que quelqu'un qui arrive, le temps qu'il s'adapte, même si c'est une personne de volonté, ça va quand même être lourd pour l'entreprise. Et la difficulté, c'est d'expliquer à des gens qui choisissent d'avoir la posture de salarié que quand ils s'en vont, c'est une grosse perte pour l'entreprise. On entend bien l'attente des salariés, c'est de s'enrichir des rencontres, c'est d'aller d'une boîte à l'autre, c'est de faire... il y a la tradition du Tour de France perpétuée par les compagnons depuis des siècles qui fait toujours envie. Alors c'est pratiqué de façon hors compagnonnage, mais on a des gens qui continuent à tourner. Et pour nous, ça, c'est la difficulté. Comment on fait pour que les gens restent? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les salariés de comprendre le fonctionnement d'une entreprise qui ne touche pas de sub? On a eu 3 sous avec ma prime Rénov', mais ça n'a rien à voir avec les entreprises de grande taille qui vivent au crochet de l'État, qui absorbent 280 milliards d'euros par an. Nous, on est en autonomie. Et ça, c'est un peu notre difficulté.
Petit retour avec Ivan. Est-ce qu'on se souvient de ce que vous voulez dire tout à l'heure?
Pas forcément, là, juste pour revenir sur l'attractivité de certains métiers et tout. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est il y a 2 influenceuses sur Instagram qui sont en carrelage et en plomberie, qui font des contenus vraiment bien, très, enfin, assez représentatifs. Il y en a une qui est devenue plus commerciale depuis, mais c'est aussi des supports qui sont intéressants pour justement... montrer autrement des métiers qui sont pas connus
ailleurs. Justement, ce que disait Ivan, c'est ce côté réseaux sociaux finalement aussi de montrer que ces métiers là existent. Les réseaux sociaux, quand on parle des réseaux, ça vous parle, Romain?
On essaye d'être de plus en plus présent dessus. Alors c'est
une manière aussi d'attirer un autre public.
La plupart de nos recrutements, environ 20%, c'est internet, réseaux sociaux. Les salons, sur les vrais publics, on est à moins de 10%. Donc, tu vois, pour donner une idée, c'est que les gens vont chercher l'info sur internet au maximum. C'est une force et c'est en même temps une faiblesse. Parce que un jeune qui va voir une capsule vidéo d'une minute sur TikTok, il va avoir une sensation, pas tous, hein, je généralise pas, de facilité. Et c'est ce que disait Laurent, c'est que déjà la formation, on a des publics qui disent c'est 1 an ou 2 ans, c'est trop long. Mais en 1 ou 2 ans, tu rends à peine quelqu'un opérationnel, c'est beaucoup trop court. Et après, lui dire que tu seras un ouvrier qualifié, performant, à peu près à partir de 5 ans dans une entreprise, pour commencer à avoir une polyvalence.
C'est beaucoup trop pour eux.
Voilà, il y a aussi ce goût de l'effort dans le recrutement. En fait, tu as la difficulté de recruter dans nos formations, en tout cas je parle pour les compagnons, et après la difficulté pour les entreprises qui les ont formés de les garder. En fait, il y en a, il peut très bien dire je fais mon contrat de 2 ans et je m'en vais. Donc tu vois, il y a pas mal d'enjeux. Mais en tout cas, oui, de montrer ce que nos jeunes hommes, femmes, nos formateurs font, le Tour de France, bah, c'est une aventure humaine incroyable. Oui, ça crée des vocations, c'est certain.
Sur la formation, je suis très d'accord. Moi, sur ma formation en plomberie, on m'avait dit recommandé de la faire en continu pour que ce soit plus facile pour le titre, pour avoir plus de temps justement sur place, être plus à l'aise sur la soudure, la machin, la théorie. Mais du coup, c'est au sacrifice du fait que ben, tu passes moins de temps, très peu de temps en entreprise. Et du coup, ça a été plus compliqué pour moi au niveau de la recherche d'emploi. De l'autre côté, sur les alternants, souvent ils continuent dans les entreprises où ils étaient en alternance. Mais par contre, les taux de réussite en titre sont extrêmement bas. Je crois que c'est peut-être de l'ordre de 30%, je ne sais plus, mais c'est assez triste finalement.
Romain, peut-être justement, juste peut-être pour enchaîner la question, magnifique transition, Divan, quelle formation un peu vous proposez? On parlait justement là de l'alternance, justement quels sont les types de formations proposées par différentes structures?
Alors le gros produit entre guillemets de formation, ça va être le CAP, que tu peux faire en 2 ans, raccourci en 1 an si tu as déjà un CAP ou un niveau supérieur d'études, donc un bac, un BTS, une licence, master. Donc pour les reconversions, c'est important de leur dire que vous pouvez avoir une formation courte en 1 an. Alors je dis courte, entendons-nous, hein, vous allez quand même avoir les matières professionnelles, etc. Et ça concerne beaucoup de publics actuellement en reconversion. On a des militaires, on a des cadres, on a la fonction publique, on a des privés, on a des restaurateurs, on a pas mal de métiers en changement qui viennent chez nous. Après, vous pouvez basculer sur ce qu'on appelle la MC, donc la mention complémentaire. Exemple, tu peux faire un CAP de couverture, tu fais une mention en zingri pour maîtriser l'ensemble de ton sujet. Les CAP peuvent se suivre aussi, CAP de charpente, CAP de couverture. Et ensuite, on a le brevet professionnel qui t'emmène 2 ou 3 marches au-dessus en termes de compétences. Là, tu peux gérer une équipe, un atelier ou une entreprise. Donc on a vraiment cette passerelle qui emmène donc voilà, CAP, MC, BP. Et pour ceux qui sont très motivés, on a des BTS spécifiques. Je vais parler vraiment sur Grenoble, sur les métiers justement de la construction durable, donc le TECB et puis également le CAREB, donc rénovation énergétique et l'étude construction bois, pour amener encore plus de compétences sur des choses très spécifiques.
Ivan, c'est des choses que vous avez eu l'occasion de faire, toutes ces formations. Comment ça s'est passé pour vous?
Moi, j'ai fait un titre professionnel et là, je me pose la question, justement, j'aimerais beaucoup pouvoir faire un BP. Le problème étant que le BP est encore très structuré en 2 ans pour des personnes en formation initiale. Et j'avais rencontré quelqu'un de la CAPEB qui me disait qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être plus sur une rentrée en décalé, et c'est un truc sur lequel je réfléchis effectivement en ce moment.
Oui, alors ça me fait penser à la FEST, la formation en situation de travail, qui est un des dispositifs qui permet à une personne de se former tout en étant dans l'entreprise. C'est voilà. Mais pour revenir sur l'attente des entreprises, des entrepreneurs quant à la formation, on attend qu'il y ait 4 ans de formation. Et c'est comme ça depuis des siècles, quel que soit le niveau de technologie des sociétés, depuis qu'on a des écrits sur l'artisanat, les employeurs attendent 4 ans de formation. Voilà, donc avant, le CAP faisait 3 ans avant, c'est-à-dire dans les années 70, donc c'était à peu près suffisant. Aujourd'hui, le CAP fait 1 an et demi, il a été un peu déshabillé de son contenu, donc on embauche les gens avec un CAP et un BP. Et puis, voilà, puis après, s'ils ont un diplôme au-delà, c'est formidable, mais ça s'adresse plutôt à des entreprises plus structurées qui ont besoin d'un encadrant intermédiaire. Mais sans encadrant intermédiaire, un ouvrier de chantier, c'est 3 ans. Voilà, 3 ans, et puis effectivement, on considère qu'il est autonome au bout de 8 ans. 8 ans après le début de sa formation, on a quelqu'un qui va être autonome, sachant qu'on est sur le marché. Le bâtiment durable, c'est l'entretien, c'est plein de choses différentes, mais c'est entre autres l'entretien du parc bâti existant. C'est 7 systèmes constructifs de gros œuvres, c'est des dizaines et des dizaines de systèmes de seconde œuvre, sans parler des fluides. Donc entretenir tout ça, ça demande des années et des années de pratique.
Et puis oui, ça prend du temps, mais d'un côté, quand on justement avec Romain tout à l'heure, on se disait, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tout vite aussi. Ouais. On attend des fois 8 ans. Ça peut paraître énorme, mais finalement.
Juste pour revenir là-dessus, parce qu'effectivement, ça fait vraiment peur de dire ah non, mais il faudra 8 ans avant d'être autonome vraiment dans mon métier. C'est pas que ça, en fait. Tu es quand même autonome. Tu peux être autonome sur beaucoup de trucs assez vite. Moi, le problème que j'ai eu, c'est peut-être, que j'ai vu aussi sur des personnes en reconversion, c'est qu'on arrive, on est adulte. On a peut-être un peu plus d'autonomie qu'un jeune, et des fois, ça c'est avec les gens de ma promo, c'est que des fois c'était difficile pour eux d'avoir un patron qui va justement être prêt à accélérer un peu le processus sur certains trucs, parce que ça peut être possible, parce que tu as déjà un meilleur relationnel en tant qu'adulte, t'as plus, tu peux avoir des compétences que tu n'as pas forcément encore développées à 16 ans. Mais sur le, oui, sur la longueur de la formation, c'est aussi beaucoup des formations qui sont en apprentissage, donc tu as un salaire assez tôt, tu as une reconnaissance aussi par les pairs qui est importante et qui est hyper valorisante. Souvent les métiers, enfin moi j'ai l'impression qu'en plomberie, il y a un peu un côté où il faut faire ses preuves au début, mais si tu montres que tu es présent et que tu es là, ça peut être
ça peut accélérer,
hyper,
ça peut aller plus vite. Ouais.
Et beaucoup plus valorisant que certains trucs dans les études supérieures.
Pour le coup, pour les métiers de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage ou tout ce qui est conseil en construction, on bénéficie en fait de la génération qui arrive parce qu'ils ont des formations sur les thématiques sur lesquelles nous on n'avait pas de formation avant et sur lesquelles les personnes qui ont plus d'expérience n'ont pas eu de formation initiale. Donc il y a des nouvelles formations notamment dans les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture pour prendre en compte beaucoup plus les thématiques de bâtiment durable. Donc on bénéficie en fait des jeunes qui arrivent, qui ont eu leur formation là-dessus alors que nous on l'a pas eu. Voilà. Ça peut être intéressant et c'est une force pour la jeune génération.
Si je peux juste nuancer un de tes propos, qui est, voilà, je valide aussi ton discours, on peut nuancer l'autonomie et l'expérience. Tu peux être autonome très vite sur certaines tâches. On va dire que l'expérience, les années d'expérience t'amènent la technicité, l'efficacité et la précision du geste. Et en fait, c'est sur le Tour de France, c'est pour ça que c'est une école assez incroyable. C'est qu'en fait, on a des jeunes qui font 5, 6, 7, 8, 10 ans de Tour de France. Ils arrivent avec 10 fois plus d'expérience cumulée que quelqu'un qui aura fait, par exemple, 10 ans dans la même entreprise. Les deux parcours sont très bien, aucun souci. Mais d'aller chercher de la longévité, tu vas aussi acquérir expérience et tu vas avoir... Tu vas asseoir aussi ça auprès de tes pairs et après tu retransmets ce que tu as donné.
Oui, en fait. c'est vrai qu'il y a à ne pas confondre de l'autonomie et l'expérience.
Pour moi, c'est
mais c'est vrai que c'est
ouais.
Oui, 8 ans, tout à l'heure, j'entendais, c'est
oui,
alors, ça, énorme.
8 ans, ça peut paraître long, mais quand on entend 8 ans, qu'on dit qu'un ouvrier est autonome, c'est qu'il sait faire du diagnostic, de la prescription, un préchiffrage, de la relation clientèle. Il n'y a pas uniquement le geste.
C'est déjà plus clair là.
Voilà. Mais voilà, et quand on dit quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qu'on peut laisser sur un chantier, bon, pas seul pour des questions de sécurité, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 personnes sur un chantier, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir gérer l'ensemble de la mission, et la mission, c'est pas uniquement le métier.
Oui, c'est là où c'est différent. Ouais. Là, quand on explique justement à quoi correspondent les 8 ans, là, on a déjà un meilleur, on peut mieux se projeter déjà à ce niveau-là. Peut-être juste avant de terminer, peut-être sur le dernier sujet, justement, on parlait tout à l'heure de mixité et d'attractivité. Quels freins encore restent à lever? On entendait tout à l'heure Romain, qui disait justement qu'il y avait quand même des choses qui ont été mises en place. Mais quel frein encore reste à lever? Peut-être Ivan, quelle problématique vous rencontrez encore ou vous vous dites là il manque des choses encore?
J'ai appelé une amie juste avant de venir parce que sur le côté où il faut que les femmes s'adaptent et les femmes elles amènent beaucoup de choses et tout, la mixité apporte beaucoup de choses, ça je n'ai pas forcément envie moi d'être considérée comme devant apporter quelque chose et il faut faire attention justement à ce qu'on nous demande pas forcément trop non plus d'adhérer à tous les stéréotypes de genre parce qu'on peut pas être sur tous les fronts, mais surtout en fait j'ai appelé cette amie juste avant de venir moi, j'ai vécu quelques situations problématiques en formation. Il y a combien de temps? J'ai le temps de raconter une anecdote ou...
3 minutes.
Ok. En stage sur un gros chantier, il y avait un receveur de douche. Il y avait une douche très ouverte qui était un endroit pour laver les outils. Et il y avait la petite blague potage de quelqu'un qui avait marqué « douche femme ». Bon, j'ai trouvé ça rigolo, c'est de l'humour potage. Je l'ai envoyé aux copains sur le groupe de formation. Et en fait, au lieu de faire ah ah ah, il y a eu des réactions genre Ivan, ça l'excite de se doucher là. Alors je m'entendais plutôt bien avec les gens du groupe de formation et ça a été extrêmement, extrêmement violent de voir ce genre de blagues qui sont se continuer sur une quinzaine de messages. J'ai quitté le groupe, on en a reparlé après. Mais c'était des comportements extrêmement violents dont les gars ne se rendaient pas compte. On a essayé d'avoir cette discussion après, je ne suis pas très satisfaite de ce que ça a donné. Et de l'autre côté, par contre, je ne sais pas les situations qu'a vécu mon ami. Mais c'était pas agréable dans son groupe de formation. Et par contre, une intervention avec. En fait, ils ont eu un débat avec un support, je ne sais plus d'où ça venait, il y avait un extrait de BD de Emma sur la culture de viol, tout ça en début, et après, enfin, c'était pas tout à fait adapté comme support, mais la discussion après s'est pas trop mal passée. Enfin, c'était pas gagné du tout, mais au final, elle avait un allié aussi un peu dans la salle, un mec qui se rendait un peu compte du problème. Et au final, la discussion a amené quand même une amélioration après. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc pour les centres de formation, de pas hésiter à faire venir des intervenants extérieurs compétents sur ces sujets-là, parce que c'est extrêmement tendu et extrêmement difficile parfois de parler avec des gens qui ont des idées reçues et arrêtées sur des sujets, sur les hommes comme ci, les hommes comme ça, et ce que je fais n'est pas grave. Parce qu'en fait aussi la société, enfin, on le voit aussi avec le procès de Mazan en ce moment, c'est que on est dans une société qui n'est pas facile et on a du mal des fois à se rendre compte que nos comportements ne sont pas adaptés. Et voilà.
Et puis c'est, j'imagine, Romain, quand voilà, vous avez mené donc ces différentes
actions.
Ouais, actions. En fait, après, on peut pas tout contrôler non plus, mais on essaye d'être vigilant au maximum.
C'est ça. Alors, en France, on aime les chiffres. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Le projet exceptionnel, donc réparti sur 3 centres de formation. Je vais parler pour celui de Grenoble. On a fait à peu près, voilà, une dizaine, douzaine d'événements, donc des portes ouvertes pour montrer aux femmes qu'est-ce qu'on fait concrètement, nos ateliers, nos formations, nos métiers. Table ronde témoignage. On a proposé ensuite de venir en atelier pour se rendre compte concrètement de ce qu'elles allaient faire en formation, donc sur quelques jours. Et ensuite, si elles voulaient aller en entreprise, on pouvait le faire. Au total, on a eu à peu près 400 femmes, donc divisé par 3, ça fait à peu près une centaine, 120 femmes sur chaque centre de formation, un peu plus de 400 même. Sur ces 400 femmes, on en a eu quasiment une trentaine ou une quarantaine dans nos ateliers. La moitié sont en formation chez nous. Donc on voit déjà qu'il y a de la demande, il y a de l'intérêt, il y a des candidates, il y a des envies, ça transforme, ça se passe super bien, ça c'est génial. Et les freins, je vais les rendre positifs. La plupart des freins que j'ai eus, c'est les candidates elles-mêmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis pas trop âgé? Est-ce que je vais arriver à faire ce qu'on me demande? Est-ce que je vais être performante sur le chantier?
Ah, donc on est plus sur du critère...
Des freins personnels.
Ouais, et professionnels, ouais. Finalement.
J'ai eu très peu de retours sur l'inclusion en entreprise, sur des choses qui se seraient mal passées. Et en fait, quand tu fais des fois des recoupages, on a aussi des situations qui se passent mal parce qu'elles sont juste pas à leur place, mais c'est pas grave. Elles ont dit, bah, j'ai fait la menuiserie, j'ai fait la porte ouverte, l'immersion. En fait, je suis pas bien. Parce que c'est peut-être juste pas le métier qui est fait pour toi, mais c'est ok, tu vois. Donc en fait, quand tu nuances à 98%, ça se passe très très bien. Et la force physique ça revient quasiment tout le temps. Et quand tu donnes des chiffres, l'un des métiers où on soulève le plus, c'est les caissiers caissières qui soulèvent en cumulé, je crois que jusqu'à 1 ou 2 tonnes de marchandises par jour. Si tu fais les petits produits, tu vois, 200 grammes,
tout, ouais.
Pardon, Ivan.
Les aides-soignants,
ouais. Aussi, quand tu soulèves, ouais. Alors c'est un exemple qui m'a été donné par une école aussi complémentaire sur Lyon qui accueille des femmes dans les métiers du bâtiment, la Bâtisse. Je sais pas si vous connaissez. Et Romain m'a dit, est-ce que quand t'es à l'hôpital, là c'est une question un peu ouverte pour tout le monde, ouais. Quand tu vois une infirmière, il y a un malade qui fait 60, 70, 80 kilos qui tombe de sa chaise, est-ce que quelqu'un vient l'aider? Personne. Par contre, sur le chantier, quand tu vois une artisane qui prend un sac de 20 kilos de placo, branle bas de combat, tu vois ce que je veux dire? L'exemple, il est hyper frappant parce qu'en fait on a plein de métiers physiques qu'on voit pas forcément, où on est,
on
est un peu moins concerné. Et le bâtiment justement a cette dynamique d'essayer d'améliorer tout le temps en continu sur les normes, les matériaux, les vestimentaires, les réglementations, la sécurité, tu vois. Donc on a cette chance aussi dans le bâtiment d'avoir une belle énergie, quoi.
5 petites minutes pour peut-être un petit mot de la fin ou des choses à rajouter, Cécile?
Oui, je pense que sur ces sujets de la mixité, le plus important, c'est de montrer l'exemple et d'aller au-delà des stéréotypes. Et donc, je trouve ça super la dynamique de exceptionnelle que vous présentez. C'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer des femmes qui le font pour que d'autres se projettent. Et ça, c'est indispensable. Et sur la thématique du bâtiment durable, je pense que le plus important, c'est vraiment la polyvalence, la curiosité et l'envie des professionnels de se former en continu et de s'ouvrir en allant rencontrer d'autres professionnels, en allant sur des salons, en allant à des formations pour réussir à intégrer toutes les nouvelles problématiques dans leur métier.
Ivan, un dernier mot?
Moi, j'ai été invitée aussi en tant que membre du collectif Tangente et j'encourage vivement, enfin, à Grenoble, effectivement, à venir nous contacter si justement vous êtes artisane ou en formation ou que vous avez un projet de formation et que vous avez envie de voir que vous n'êtes pas seule. mais aussi pour d'autres personnes minorisées et tout, ne pas hésiter aussi de se constituer en collectif. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de ce que dans le bâtiment, il y avait énormément de jeunes étrangers qui se formaient, qui peuvent aussi avoir leurs problématiques. L'homosexualité, c'est un truc qui n'est pas abordé, donc c'est aussi rappeler qu'il y a d'autres publics qui sont minorisés et les encourager à se rappeler qu'ils ne sont peut-être pas seuls et à pouvoir s'organiser entre eux. Parce que, enfin, ça aide de savoir que tu as d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que toi et de savoir comment les résoudre pacifiquement, trouver des solutions.
Merci Ivan d'avoir rajouté ça, c'est très important. Romain ?
Alors nous on a deux événements exceptionnels qui arrivent sur novembre et sur décembre, donc pas hésiter à se rapprocher de la fédération sur les réseaux sociaux ou à nous appeler directement. On a des immersions en atelier aussi qui sont remis en route, donc là si on a des femmes et on accueille aussi des hommes, on fait des immersions mixtes maintenant parce qu'en fait on a plein de jeunes qui se posent des questions, donc on ouvre à tous les publics, donc pas hésiter à nous contacter. Et je terminerai simplement en disant qu'en fait le bâtiment aujourd'hui recherche des compétences et des talents et qu'on est de moins en moins regardant. En fait, faut pas se fixer, je suis une femme, donc non, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, on a besoin de jeunes, on a besoin de gens expérimentés, on a besoin de seniors, hommes et femmes sur des hautes fonctions ou qui ont des talents qui ont été formés sur la longueur, on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, le bâtiment, il est ouvert, faut juste motivation, implication et pas avoir encore une fois peur de cette durée de formation et d'expérience à acquérir, tout simplement.
Laurent, Capup 38, donc bien évidemment le site internet, quelque chose à rajouter aussi, j'imagine.
Oui, comme vient de le dire Romain, le bâtiment c'est un secteur extrêmement riche, très loin de l'image que se font beaucoup d'orienteurs qui imaginent, quand ils pensent bâtiment, ils pensent à la reconstruction à l'après-guerre avec un manœuvre à côté de la bétonnière. Et nous on appelle ça la directive Rocard, hein, où la France a décidé en 81, Rocard c'est un premier ministre dont plus personne se souvient dans les moins de 30 ans, mais c'est lui qui a décrété que les Français devraient travailler dans les métiers de service. Et aujourd'hui, quand on leur dit que les métiers à part manuel, c'est tout aussi riche, c'est intéressant, ça a du sens, on aimerait bien que les postures changent. Alors les postures changent dans la hiérarchie de l'éducation nationale. On attend qu'elles changent chez les orienteurs en bas de la hiérarchie. Mais voilà. Et puis un dernier mot, j'aimerais aussi... Le bâtiment a besoin de stabilité, a besoin d'avoir des équipes qui restent longtemps pour que les comportements soient affinés, etc. Donc il faut aussi, dans le bâtiment, mettre fin à la sous-traitance au-delà de deux rangs. Parce que c'est un procédé qui fait que les maîtres d'ouvrage payent 1,5 fois ce qu'ils avaient prévu de payer, que tout un tas d'entreprises font de la marge en revendant le chantier sans l'avoir signalé au maître d'ouvrage, que les équipes n'ont pas besoin de se comporter bien puisque de toute façon elles ne se reverront plus jamais. Et voilà, donc pour nous, cette stabilisation, c'est indispensable pour la montée en compétences et répondre à tous les enjeux du moment qui sont l'évolution du rapport au territoire, à l'eau, à l'énergie et à la ressource.
Eh bien, merci pour cette table ronde. On remercie donc Laurent Marmonnier, coprésident de CAPEP 38, Romain, garçon chargé de projets exceptionnels, donc les compagnons du Tour de France. Merci beaucoup à Ivan aussi, Sanchez, artisane plombière, Cécile Guyard, chargée d'opérations, service construction Grenoble Alpes Métropole. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde et puis à très bientôt et puis bonne continuation dans tous vos projets.
Merci à toi.
C'est très important. Merci. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques instants pour une prochaine table ronde, surtout ne bougez pas.
News FM en mode hors les murs. Jeudi 9 octobre 2025, deuxième et dernière journée du Forum des métiers Grenoble-Alpes Métropole, édition 2025 à Alpexpo Grenoble.